Chapitre 8. Actée prit un voile et un manteau et suivit Sporus. Après quelques détours dans le palais, que celle qu'il habitait n'avait pas encore eu le temps de parcourir, son conducteur ouvrit une porte avec une clé d'or qu'il remit ensuite à la jeune grecque afin qu'elle pût revenir seule, et ils se trouvèrent dans les jardins de la maison dorée. Actée se crut hors de la ville tant l'horizon était étendu et magnifique. À travers les arbres, elle apercevait une pièce d'eau grande comme un lac, et de l'autre côté de ce lac, au-dessus d'arbres touffus, dans un lointain bleuâtre argenté par la lumière de la lune, la colonnade d'un palais. L'air était pur, pas un nuage ne tachait l'horizon limpide du ciel. Le lac semblait un vaste miroir, et les derniers bruits de Rome, près de s'endormir, s'éteignaient dans l'espace. Sporus et la jeune fille, vêtus de blanc tous deux et marchant en silence au milieu de ce paysage splendide, semblaient deux ombres errantes dans les Champs-Élysées. Au bord du lac et sur les vastes pelouses qui bordaient les forêts, paissaient, comme dans les solitudes de l'Afrique, des troupeaux de gazelles sauvages, tandis que sur des ruines factices qui leur rappelaient celles de leur antique patrie, de longs oiseaux blancs aux ailes de flamme se tenaient gravement debout et immobiles comme des sentinelles, et, comme des sentinelles, faisaient entendre de temps en temps, à intervalles égaux, un cri rauque et monotone. Arrivé au bord du lac, Sporus descendit dans une barque et fit signe à Actée de la suivre. Puis, déployant une petite voile de pourpre, ils commencèrent à glisser, comme par magie, sur cette eau à la surface de laquelle venaient étinceler les écailles d'or des poissons les plus rares de la mer des Indes. Cette navigation nocturne rappela à Actée son voyage sur la mer d'Ionie, et les yeux fixés sur l'esclave, elle s'étonnait de nouveau de cette merveilleuse ressemblance entre le frère et la sœur qu'il avait déjà frappé dans Sabina et qui la frappait de nouveau dans Sporus. Quant au jeune homme, ses yeux baissés et timides semblaient fuir ceux de son ancienne hôtesse, et, pilote silencieux, il dirigeait la barque sans laisser échapper une seule parole. Enfin, Actée rompit la première, le silence, et d'une voix qui, quelque douce qu'elle fût, fut tressaillir celui auquel elle s'adressait.
« Sabina m'avait dit que tu étais resté à Corinthe, Sporus, lui dit-elle. Sabina m'avait donc trompé ?»«
Sabina t'avait dit la vérité, maîtresse, répondit l'esclave, mais je n'ai pu demeurer longtemps éloigné de Lucius. » Un vaisseau faisait voile pour la Calabre, je m'y suis embarqué, et comme au lieu de tourner par le détroit de Messine, il a abordé directement à Brinde, j'ai suivi la voie appienne, et, quoique parti deux jours après l'empereur, je suis arrivé en même temps que lui à Rome. Et Sabina a sans doute été bien heureuse de te revoir, car vous devez vous aimer beaucoup.
« Oui, sans doute, dit Sporus, car non seulement nous sommes frères et sœurs, mais encore jumeaux. Eh bien, dis à Sabina que je veux lui parler et qu'elle vienne me trouver demain matin. »«
Sabina n'est plus à Rome, répondit Sporus.
Et pourquoi l'a-t-elle quitté ?
Telle est-elle la volonté du divin César.
Et où est-elle allée ?
Je l'ignore.
Il y avait dans la voix de l'esclave, toute respectueuse qu'elle était, un accent d'hésitation et de gêne qui empêcha Actée de lui faire de nouvelles questions. D'ailleurs, au même moment, la barque touchait le bord du lac, et Sporus, après l'avoir tiré sur le rivage et voyant Actée descendu à terre, s'était remis en marche. La jeune grecque le suivit de nouveau, silencieuse mais pressant le pas, car elle entrait en ce moment sous un bois de pins et de sycomores dont les branches touffues rendaient la nuit si épaisse que, quoiqu'elle sût parfaitement qu'elle n'avait aucune aide à attendre de son conducteur, Un mouvement instinctif de crainte la rapprochait de lui. En effet, depuis quelques instants, un bruit plaintif qui semblait sortir des entrailles de la terre était à de courts intervalles parvenu jusqu'à elle. Enfin, un cri distinct et humainement articulé se fit entendre. La jeune fille tressaillit et mettant la main avec effroi sur l'épaule de Sporus. « Qu'est-ce ceci ? » dit-elle. « Rien, » répondit l'esclave. « Mais cependant, il m'a semblé entendre, » continua Acté. « Ah, gémissement, oui, nous passons près des prisons. Et ces prisonniers, quels sont-ils ? Oh, ce sont des chrétiens réservés au cirque. » Acté continua sa route en pressant le pas, car en passant devant un soupirail, elle venait effectivement de reconnaître les notes les plus plaintives et les plus douloureuses de la voix humaine, et quoique ces chrétiens lui eussent été présentés toutes les fois qu'elle en entendait parler comme une secte coupable et impie, se livrant à toutes sortes de débauches et de crimes, elle éprouvait cette douleur sympathique que l'on ressent, fût-il coupable pour ceux qui doivent mourir d'une mort affreuse. Elle se hâta donc de sortir du bois fatal, et arrivée sur sa lisière, elle vit le palais illuminé, elle entendit le bruit des instruments, et, la lumière et la mélodie succédant aux ténèbres et aux plaintes, elle entra d'un pied plus sûr et cependant moins rapide sous le vestibule. Là, Acté s'arrêta un instant ébloui. Jamais dans ses songes, l'imagination féerique d'un enfant n'aurait pu rêver une telle magnificence. Ce vestibule, tout resplendissant de bronze, d'ivoire et d'or, était si vaste qu'une triple rangée de colonnes l'entourait, composant des portiques de 1000 pas de longueur et si élevés qu'au milieu était placée une statue haute de 120 pieds, sculptée par Zénodore et représentant le divin empereur debout et dans l'attitude d'un dieu. Acté passa en frissonnant près de cette statue. Qu'était-ce donc que le pouvoir effroyable de cet homme qui se faisait sculpter des images 3 fois plus hautes que celles du Jupiter olympien? Qui avait pour ses promenades des jardins et des étangs qui ressemblaient à des forêts et des lacs, et pour ses délassements et ses plaisirs des captifs qu'on jetait aux tigres et aux lions? Dans ce palais, toutes les lois de la loi humaine étaient interverties. Un geste, un signe, un coup d'œil de cet homme et tout était dit. Un individu, une famille, un peuple disparaissait de la surface de la terre, et cela sans qu'un souffle s'opposât à l'exécution de cette volonté, sans qu'on entendît une autre plainte que les cris de ceux qui mouraient, sans que rien ne fût ébranlé dans l'ordre de la nature, sans que le soleil se voilât, sans que la foudre annonçât qu'il y eut un ciel au-dessus des hommes, des dieux et au-dessus des empereurs. Ce fut donc avec un sentiment de crainte profonde et terrible qu'Acté monta l'escalier qui conduisait à l'appartement de Lucius. Et cette impression avait pris un tel degré de force qu'arrivé à la porte et au moment où Sporus allait en tourner la clé, elle l'arrêta, lui posant une main sur l'épaule et appuyant l'autre sur son propre cœur dont les battements l'étouffaient. Enfin, après un instant d'hésitation, elle fit signe à Sporus d'ouvrir la porte. L'esclave obéit, et au bout de l'appartement, elle aperçut Lucius, vêtu d'une simple tunique blanche, couronné d'une branche d'olivier, à demi couché sur un lit de repos. Alors, tout souvenir triste s'effaça de sa mémoire. Elle avait cru que quelque changement avait dû se faire dans cet homme depuis qu'elle le savait maître du monde. Mais d'un seul regard, elle avait reconnu Lucius, le beau jeune homme à la barbe d'or qu'elle avait guidé à la maison de son père. Elle avait retrouvé son vainqueur olympique. César avait disparu. Elle voulut courir à lui, mais à moitié chemin, la force lui manqua. Elle tomba sur un genou, en tendant les mains vers son amant, et murmurant à peine « Lucius, toujours Lucius, n'est-ce pas ?»«
Oui, oui, ma belle Corinthienne, sois tranquille, » répondit César, d'une voix douce et en lui faisant signe de venir à lui. « Lucius, toujours. N'est-ce pas sous ce nom que tu m'as aimé, aimé pour moi et non pour mon empire et pour ma couronne, comme toutes celles qui m'entourent ? Viens, mon Lactée, lève-toi, le monde à mes pieds, mets-toi dans mes bras. »
« Oh, je le savais bien, moi !» s'écria Actée en se jetant au cou de son amant. « Je le savais bien qu'il n'était pas vrai que mon Lucius fût méchant. »«
Méchant ?» dit Lucius, « et qui t'a déjà dit cela ?»«
Non, non, interrompit Actée, pardon. Mais on croit parfois que le lion qui est noble et courageux comme toi, et qui est roi parmi les animaux comme toi, empereur parmi les hommes, on croit parfois que le lion est cruel, parce qu'ignorant sa force, il tue avec une caresse. Ô mon lion, prends garde à ta gazelle.
Ne crains rien, Actée, répondit en souriant César. Le lion ne se souvient de ses ongles et de ses dents que pour ceux qui veulent lutter contre lui. Tiens, tu vois, il se couche à tes pieds comme un agneau.
« Ah, aussi, n'est-ce pas Lucius que je crains ? Oh, pour moi, Lucius est mon hôte et mon amant. C'est celui qui m'a enlevé à ma patrie et à mon père et qui doit me rendre en amour ce qu'il m'a ravi en pureté. Mais celui que je crains... »
Elle hésita. Lucius lui fit un signe d'encouragement.
« C'est César qui a exilé Octavie, c'est Néron, le futur mari de Poppée.
Tu as vu ma mère ? S'écria Lucius, se relevant d'un bond et regardant Actée en face. Tu as vu ma mère ?
Oui, murmura en tremblant la jeune fille.
Oui, continua Néron avec amertume, et c'est elle qui t'a dit que j'étais cruel, n'est-ce pas ? Que j'ai tout fait en embrassant, n'est-ce pas ? Que je n'avais de Jupiter que la foudre qui dévore. C'est elle qui t'a parlé de cette Octavie qu'elle protège et que je hais. Qu'elle m'a mise, malgré moi, entre les bras, et que j'en ai repoussé avec tant de peine, dont l'amour stérile n'a jamais eu pour moi que des caresses patientes et forcées. Ah ! On se trompe et l'on a tort. Si l'on croit obtenir quelque chose de moi en me fatiguant de prières ou de menaces. J'avais bien voulu oublier cette femme, la dernière d'une race maudite. Qu'on ne m'en fasse donc pas sans souvenir.
Lucius avait à peine achevé ses paroles qu'il fut effrayé de l'impression qu'elles avaient produite. Actée, les lèvres pâles, la tête en arrière, les yeux pleins de larmes, était renversée sur le dossier du lit, tremblante sous une colère dont elle entendait la première explosion. En effet, cette voix si douce qui d'abord avait été touchée les fibres les plus secrètes de son cœur avait pris en un instant une expression terrible et fatale, et ses yeux, dans lesquels elle n'avait jusqu'alors lu que l'amour, lançait ces éclairs terribles devant lesquels Rome se voilait le visage. « Oh, mon père !» s'écria Actée en sanglots. « Oh, mon père, pardonne-moi !»«
Oui, car Agrippine t'aura dit que tu serais assez puni de ton amour par mon amour. Elle t'aura découvert quelle espèce de bête féroce tu aimais. Elle t'aura raconté la mort de Britannicus, celle de Julius Montanus, que sais-je encore. Mais elle sera bien gardée de te dire que l'un voulait me prendre le trône et que l'autre m'avait frappé d'un bâton au visage. Je le conçois, c'est une vie si pure que celle de ma mère.
Lucius, Lucius, s'écria Acte, tais-toi. Au nom des dieux, tais-toi.
Oh, continua Néron, elle t'a mise de moitié dans nos secrets de famille, eh bien
écoute le reste. Cette femme, qui me reproche la mort d'un enfant et d'un misérable, fut exilée pour ses ordres, des ordres par Caligula, son frère, qui n'était pas un maître sévère, en fait de mœurs, cependant. Rappelée de l'exil, lorsque Claude monta sur le trône, elle devint la femme de Crispus Passienus, patricien d'illustre famille, qui eut l'imprudence de lui léguer ses immenses richesses et qu'elle fit assassiner, voyant qu'il tardait à mourir. Alors commença la lutte entre elle et Messaline. Messaline succomba. Claude fut le prix de la victoire. Agrippine devint la maîtresse de son oncle. Ce fut alors qu'elle conçut le projet de régner sous mon nom. Octavie, la fille de l'empereur, était fiancée à Silanus. Elle arracha Silanus du pied des autels. Elle trouva de faux témoins qui l'accusèrent d'inceste. Silanus se tua et Octavie fut veuve. On la poussa dans mes bras, toute pleurante, et il me fallut la prendre, le cœur plein d'un autre amour. Bientôt, une femme essaya de lui enlever son imbécile amant. Les témoins, qui avaient accusé Silanus d'inceste, accusèrent Lolia Paulina de magie, et Lolia Paulina, qui passait pour la plus belle femme de son temps, que Caligula avait épousée à la manière de Romulus et d'Auguste, et montré aux Romains portant dans une seule parure pour 40 millions de sesterces, d'émeraudes et de perles, mourut lentement dans les tortures. Alors rien ne la sépara plus du trône. La nièce épousa l'oncle, je fus adopté par Claude, et le Sénat décerna à Agrippine le titre d'Auguste. Attends, ce n'est pas tout, continua Néron, écartant les mains d'Actée, qui essayait de se boucher les oreilles afin de ne pas entendre ce fils qui accusait sa mère. Il arriva un jour que Claude condamna à mort une femme adultère. Ce jugement fit trembler Agrippine et Pallas. Le lendemain, l'empereur dînait au Capitole avec des prêtres. Son dégustateur, Allotus, lui servit un plat de champignons préparé par Locuste. Et comme la dose n'était pas assez forte et que l'empereur, renversé sur le lit du festin, se débattait contre l'agonie, Xénophon, son médecin, sous prétexte de lui faire rejeter le mets fatal, lui introduisit dans la gorge une plume empoisonnée, et pour la troisième fois, Agrippine se trouva veuve. Elle avait passé sous silence toute cette première partie de son histoire, n'est-ce pas ? Et elle l'avait commencé au moment où elle me mit sur le trône, croyant régner en mon nom, croyant être le corps et moi l'ombre, la réalité et moi le fantôme. Et cela, effectivement, dura instant ainsi. Elle eut une garde prétorienne, elle présida le Sénat, elle rendit des arrêts, fit condamner à mort la franchie Narcisse, empoisonner le proconsul Julius Silanus. Puis, une fois qu'en voyant tant de supplices, je me plaignais de ce qu'elle ne me laissait rien à faire, elle me dit que j'en faisais trop encore pour un étranger, pour un enfant adoptif, et qu'heureusement elle et les dieux avaient conservé les jours de Britannicus. Je te le jure, quand elle me dit cela, je ne pensais pas plus à cet enfant que je ne pensais aujourd'hui à Octavie. Et cette menace, et non le poison que je lui donnais, fut le véritable coup dont il mourut. Aussi, mon crime ne fut pas d'avoir été meurtrier, mais de vouloir être empereur. Ce fut alors... Prends patience, j'ai fini. Ce fut alors, écoute bien cela, jeune fille chaste et pure, jusqu'au milieu de ton amour. Ce fut alors qu'elle essaya de reprendre sur moi comme maîtresse l'ascendant qu'elle avait sur moi comme mère. « Oh, tais-toi !» s'écria Actée épouvantée. « Ah, tu me parlais d'Octavie et de Poppée, et tu ne te doutais pas que tu avais une troisième rivale. Tais-toi, tais-toi !» Et ce ne fut pas dans le silence de la nuit, dans l'ombre solitaire et mystérieuse d'une chambre écartée qu'elle vint à moi avec cette intention. Non, Ce fut dans un repas au milieu d'une orgie en face de ma cour. Sénèque y était, Burrus y était, Paris et Fan y étaient, ils y étaient tous. Elle s'avança, couronnée de fleurs et à demi nue, au milieu des champs et des lumières. Et ce fut alors qu'effrayée de ses projets et de sa beauté, car elle est belle, ses ennemis poussèrent Poppée entre elle et moi. Eh bien, que dis-tu de ma mère, Actée? Infamie, infamie, murmura la jeune fille en couvrant de ses mains son visage rouge de honte. Oui, n'est-ce pas une singulière race que la nôtre? Aussi ne nous jugeant pas dignes d'être hommes, on nous fait Dieu. Mon oncle étouffa son tuteur avec un oreiller et son beau-père dans un bain. Mon père, au milieu du forum, creva avec une baguette l'œil d'un chevalier. Sur la voie appienne, il écrasa sous les roues de son char un jeune romain qui ne se rangeait pas assez vite. Et à table, un jour, près du jeune César qu'il avait accompagné en Orient, il poignarda avec le couteau qui lui servait à découper son affranchi qui refusait de boire. Ma mère, je t'ai dit ce qu'elle avait fait. Elle a tué Passienus, elle a tué Silanus, elle a tué Liapolina, elle a tué Claude, et moi le dernier, moi avec qui s'éteindra le nom, si j'étais empereur juste au lieu d'être fils pieux, moi, je tuerais ma mère. Actée poussa un cri terrible et tomba à genoux les bras étendus vers César. « Eh bien, que fais-tu ? » continua Néron en souriant, avec une expression étrange. « Tu prends au sérieux ce qui n'est qu'une plaisanterie. Quelques vers qui me sont restés dans l'esprit depuis la dernière fois que j'ai chanté Oreste et qui se seront mêlés à ma prose. Allons donc, rassure-toi, fol enfant que tu es. D'ailleurs, es-tu venu pour prier et pour craindre? T'ai-je envoyé chercher pour que tu te meurtrisses les genoux et que tu te tordes les bras? Voyons, relevons-nous. Est-ce que je suis César? Est-ce que je suis Néron? Est-ce qu'Agrippine est ma mère? Mais tu as rêvé, tout cela, ma belle Corinthienne. Je suis Lucius, l'athlète, le conducteur de char, le chanteur à la lyre dorée, à la voix tendre. Et voilà tout. Oh, répondit Actée en appuyant sa tête sur l'épaule de Lucius. Oh, le fait est qu'il y a des moments où je croirais que je suis sous l'empire d'un songe et que je vais me réveiller dans la maison de mon père, si je le sentais au fond du cœur. La réalité de mon amour. Oh, Lucius, Lucius, ne te joue pas ainsi de moi. Ne vois-tu pas que je suis suspendu par un fil au-dessus des gouffres de l'enfer? Prends pitié de ma faiblesse. Ne me rends pas folle. Et d'où viennent ces craintes et ces angoisses? Ma belle Hélène a-t-elle à se plaindre de son Paris? Le palais qu'elle habite n'est-il point assez magnifique? Oh, nous lui en ferons bâtir un autre, dont les colonnes seront d'argent et les chapiteaux d'or. Les esclaves qui la servent lui ont-ils manqué de respect? Elle a sur eux droit de vie et de mort. Que veut-elle? Que désire-t-elle? Et tout ce qu'un homme, tout ce qu'un empereur, tout ce qu'un dieu peut accorder, qu'elle le demande, elle l'obtiendra. Oui, je sais que tu es tout-puissant. Je crois que tu m'aimes. J'espère que tout ce que je te demanderai, tu me le donneras. Tout, excepté ce repos de l'âme, cette conviction intime que Lucius est à moi, comme je suis à Lucius. Il y a maintenant tout un côté de ta personne, toute une partie de ta vie qui m'échappe, qui s'enveloppe d'ombre et qui se perd dans la nuit. C'est Rome, c'est l'Empire, c'est le monde qui te réclame. Et tu n'es à moi que par le point où je te touche. Tu as des secrets, tu as des haines que je ne puis partager, des amours que je ne dois pas connaître. Au milieu de nos épanchements les plus tendres, de nos entretiens les plus doux, de nos heures les plus intimes, une porte s'ouvrira comme cette porte s'ouvre en ce moment, et un affranchi à la figure impassible te fera un signe mystérieux auquel je ne pourrais, auquel je ne devrais rien comprendre. Tiens, voilà mon apprentissage qui commence. Que veux-tu, Anicetus Dinéron? Celle que le divin César a fait demander est là, qui l'attend. Dis-lui que j'y vais, reprit l'empereur. L'affranchi sortit. Tu vois bien? Répondit Actée en le regardant tristement. Explique-toi, dit Néron. Une femme est là.
Sans doute.
Et je t'ai senti tressaillir quand on l'a annoncé.
Ne tressaille-t-on que d'amour?
Cette femme, Lucius, on parle, j'attends. Cette femme, eh bien, cette femme. Cette femme s'appelle Poppée.
Ah, tu te trompes, répondit Néron. Cette femme s'appelle Locuste.
Chapitre 9. Néron se leva et suivit l'affranchi. Après quelques détours dans des corridors secrets qui n'étaient connus que de l'empereur et de ses plus fidèles esclaves, ils entrèrent dans une petite chambre sans fenêtre, dans laquelle le jour et l'air pénétraient par le haut. Encore cette ouverture était-elle moins faite pour éclairer l'appartement que pour en laisser échapper la vapeur qui, dans certains moments, s'exhalait des réchauds de bronze refroidis à 7 heures, mais sur lesquels le charbon préparé n'attendait que l'étincelle et le souffle, ces deux grands moteurs de toute vie et de toute lumière. Autour de la chambre étaient rangés des instruments de grès et de verre aux formes allongées et étranges, qui semblaient modelés par quelque ouvrier capricieux sur de vagues souvenirs d'oiseaux bizarres ou de poissons inconnus. Des vases de différentes tailles et fermés soigneusement de couvercles sur lesquels l'œil étonné cherchait à lire des caractères de convention qui n'appartenaient à aucune langue étaient rangés sur des tablettes circulaires et saignaient le laboratoire magique comme ces bandelettes mystérieuses qui serrent la taille des momies et au-dessus d'eux pendaient à des clous d'or des plantes sèches ouvertes encore selon qu'elles devaient être employées en feuilles fraîches ou en poussière. La plupart de ces plantes avaient été cueillies aux époques recommandées par les mages, c'est-à-dire au commencement de la canicule, à cette époque précise et rapide de l'année où le magicien ne pouvait être vu ni de la lune ni du soleil. Il y avait dans ces vases les préparations les plus rares et les plus précieuses. Les uns contenaient des pommades qui rendaient invincibles et qui étaient composées à grands frais et à grand-peine avec la tête et la queue d'un serpent ailé, des poils arrachés au front d'un tigre, de la moelle de lion et de l'écume d'un cheval vainqueur. Les autres renfermaient amulettes puissantes pour l'accomplissement de tous les vœux, du sang de basilic qu'on appelait aussi sang de Saturne. Enfin, il y en avait qu'on eût pu payer en les échangeant contre leur poids en diamants et dans lesquels étaient scellées quelques parcelles de ce parfum si rare que Julius César seul, disait-on, avait pu s'en procurer et que l'on trouvait dans l'or apiré, c'est-à-dire qui n'a point encore été mis à l'épreuve du feu. Il y avait parmi ces plantes des couronnes d'Enochrysos, cette fleur qui donne la faveur et la gloire, et des touffes de verveine déracinées de la main gauche et dont on avait fait sécher séparément à l'ombre les feuilles, la tige et les racines. Celle-ci était pour la joie et le plaisir, car en arrosant le triclinium avec de l'eau dans laquelle on avait fait infuser quelques feuilles, il n'y avait pas de convive si morose, de philosophe si sévère, qui ne se livra bientôt à la plus folle gaieté. Une femme vêtue de noir, la robe relevée d'un côté à la hauteur du genou par une escarboucle, la main gauche armée d'une baguette de coudrier, arbre qui servait à découvrir les trésors, attendait Néron dans cette chambre. Elle était assise et plongée dans une si profonde rêverie que l'entrée de l'empereur ne put la tirer de sa préoccupation. Néron s'approcha d'elle, et à mesure qu'il s'approchait, sa figure prenait une singulière expression de crainte, de répugnance et de mépris. Arrivé près d'elle, il fit un signe à Anicétus, et celui-ci toucha de la main l'épaule de la femme, qui releva lentement la tête et la secoua pour écarter ses cheveux, qui, retombant libres, sans peigne et sans bandelette, lui couvraient comme un voile le devant du visage chaque fois qu'elle baissait le front. Alors on put voir la figure de la magicienne. C'était celle d'une femme de 35 à 37 ans, qui avait été belle, mais qui était flétrie avant l'âge par l'insomnie, par la débauche, par le remords, peut-être. Ce fut elle qui adressa la première la parole à Néron, sans se lever et sans faire d'autre mouvement que celui des lèvres. « Que me veux-tu encore ?» lui dit-elle. « D'abord, lui dit Néron, te souviens-tu du passé ?»« Oh, demande à Thésée s'il se souvient de l'enfer. » Tu sais où je t'ai prise, dans une prison infecte, où tu agonisais lentement, au milieu de la boue, où tu étais couché, et des reptiles qui passaient sur tes mains et sur ton visage. Oh, faisait si froid que je les sentais pas. Tu sais où je t'ai laissé, dans une maison que je t'ai fait bâtir et que je t'ai ornée comme pour une maîtresse. On appelait ton industrie un crime, je l'ai appelé un art. On poursuivait des complices, je t'ai donné des élèves. Et moi, je t'ai rendu en échange la moitié de la puissance de Jupiter. J'ai mis à tes ordres la mort, cette fille aveugle et sourde du sommeil et de la nuit. C'est bien, je vois que tu te rappelles. Je t'ai envoyé chercher. Qui donc doit mourir? Oh, pour cela, il faut que tu le devines, car je ne puis te le dire. C'est un ennemi trop puissant et trop dangereux pour que je confie son nom à la statue même du silence. Seulement prends garde, car il ne faut pas que le poison tarde, comme pour Claude, ou échoue à un premier essai comme sur Britannicus. Il faut qu'il tue à l'instant, sans laisser le temps à celui ou à celle qu'il frappera, d'articuler une parole ou de faire un seul geste. Enfin, il me faut un poison, pareil à celui que nous préparâmes dans ce lieu même et dont nous fîmes l'essai sur un sanglier. Oh, dit Locuste, s'il ne s'agit que de préparer ce poison, et un plus terrible encore, rien de plus facile. Mais lorsque je te donnais celui dont tu me parles, je savais pour qui je me mettais à l'œuvre. C'était pour un enfant, sans défiance, et je pouvais répondre des résultats. Mais il y a des gens sur lesquels le poison, comme sur Mithridate, n'a plus aucune puissance, car ils ont peu à peu habitué leur estomac à supporter les sucs les plus vénéneux et les poudres les plus mortelles. Si par malheur mon art allait se heurter à l'une de ces organisations de fer, le poison manquerait son effet, et tu dirais que je t'ai trompé. Et, continua Néron, je te replongerai dans ce cachot, et je te redonnerai pour gardien ton ancien geôlier, Pollio Julius. Voilà ce que je ferai. Réfléchis donc. Dis-moi le nom de la victime, je te répondrai. Une seconde fois, je ne puis ni ne veux te le dire. N'as-tu pas des combinaisons pour trouver l'inconnu, des sortilèges qui te font apparaître des fantômes voilés que tu interroges et qui te répondent? Cherche et interroge. je ne veux rien te dire, ben, je ne t'empêche pas de deviner.
Je ne puis rien faire ici, tu n'es pas ma prisonnière.
Dans 2 heures, je reviendrai, je préfère te suivre.
Même au mont Esquilin ?
Partout.
Et tu viendras seul ?
Seul, s'il le faut.
Viens donc.
Néron fit signe à Anicétus de se retirer et suivit Locuste hors de la maison dorée, ayant pour toute arme apparente son épée. Il est vrai que quelques-uns ont dit qu'il portait nuit et jour sur la peau une cuirasse d'écailles qui lui défendait toute la poitrine et qui était si habilement faite qu'elle se pliait à tous les mouvements du corps, quoiqu'elle fût à l'épreuve des armes les mieux trempées et du bras le plus vigoureux. Ils suivirent les rues sombres de Rome, sans esclave qui les éclaira, jusqu'au Vélabre où était située la maison de Locuste. La magicienne frappa 3 coups, et une vieille femme, qui l'aidait parfois dans ses enchantements, vint ouvrir et se rangea en souriant pour laisser passer le beau jeune homme qui venait sans doute commander quelques filtres. Locuste poussa la porte de son laboratoire et, y entrant la première, elle fit signe à César de la suivre. Alors un singulier mélange d'objets hideux et opposés s'offrit aux yeux de l'empereur. Des momies égyptiennes et des squelettes étrusques étaient dressés le long des murs. Des crocodiles et des poissons aux formes bizarres pendaient au plafond, soutenus par des fils de fer invisibles. Des figures de cire de différentes grandeurs et à différentes ressemblances étaient posées sur des piédestaux avec des aiguilles ou des poignards dans le cœur. Au milieu de tous ces appareils différents, voltait sans bruit un hibou effrayé qui, chaque fois qu'il se posait, faisait luire ses yeux comme 2 charbons ardents et claquait son bec en signe de terreur. Dans un coin de la chambre, une brebis noire bêlait tristement comme si elle eût deviné le sort qui l'attendait. Bientôt, au milieu de ces bruits divers, Néron distingua des plaintes. Il regarda alors avec attention autour de lui, et vers le milieu de l'appartement, il aperçut, à fleur de terre, un objet dont il ne put d'abord distinguer la forme. C'était une tête humaine, mais sans corps, quoique ses yeux parussent vivants. Autour de son cou était enroulé un serpent, dont la langue noire et mouvante se dirigeait de temps en temps avec inquiétude du côté de l'empereur et se replongeait bientôt dans une jatte de lait. Autour de cette tête, on avait placé, comme autour de Tantale, des mets et des fruits, de sorte qu'il semblait que c'était un supplice, un sacrilège ou une dérision. Au reste, au bout d'un instant, l'empereur n'eut plus de doute. C'était bien cette tête qui se plaignait. Cependant, Locuste commençait son opération magique. Après avoir arrosé toute la maison avec de l'eau du lac Averne, elle alluma un feu composé de branches de sycomore et de cyprès arrachées sur des tombeaux, y jeta des plumes de chouette trempées dans du sang de crapaud et y ajouta des herbes cueillies à Iolcos et en Ibérie. Alors elle s'accroupit devant ce feu en murmurant des paroles inintelligibles. Puis, lorsqu'il commença de s'éteindre, elle regarda autour d'elle comme pour chercher quelque chose que ses yeux ne rencontrèrent point d'abord. Alors elle fit entendre un sifflement particulier qui fit dresser la tête au serpent. Au bout d'un instant, elle siffla une seconde fois et le reptile se déroula lentement. Enfin, un troisième coup de sifflet se fit entendre. Et comme forcé d'obéir à cet appel, l'animal, obéissant mais craintif, rampa lentement vers elle. Alors elle le saisit par le cou et lui approcha la tête de la flamme. Aussitôt tout son corps se roula autour du bras de la magicienne, et à son tour il poussa des sifflements de douleur. Mais elle l'approcha toujours davantage du foyer jusqu'à ce que sa gueule se blanchît d'une espèce d'écume. 3 ou 4 gouttes de cette bave tombèrent sur les cendres. C'était probablement tout ce qu'elle voulait, locuste, car elle lâcha aussitôt le reptile, qui s'enfuit avec rapidité, rampa comme un lierre autour de la jambe d'un squelette, et se réfugia dans les cavités de la poitrine, où pendant quelque temps encore, on put lui voir agiter les restes de sa souffrance à travers les ossements qui l'entouraient comme une cage. Alors, locuste recueillit ses cendres et ses braises ardentes dans une serviette d'amiante, prit la brebis noire par une corde qui lui pendait au cou, et ayant achevé sans doute ce qu'elle avait à faire chez elle, elle se retourna vers Néron, qui avait regardé toutes ces choses avec l'impassibilité d'une statue, et lui demanda s'il était toujours dans l'intention de l'accompagner au mont Esquilin. Néron lui répondit par un signe de tête. Locuste sortit, et l'empereur marcha derrière elle. Au moment où il refermait la porte, il entendit une voix qui demandait pitié, et avec un accent si douloureux qu'il en fut ému et voulut arrêter Locuste. Mais celle-ci répondit que le moindre retard lui ferait manquer sa conjuration, et que, si l'empereur ne l'accompagnait pas à l'instant même, elle serait forcée d'aller seule ou de remettre l'entreprise au lendemain. Néron repoussa la porte et se hâta de la suivre. Au reste, comme il n'était pas étranger au mystère de la divination, il avait à peu près reconnu la préparation dont il s'agissait. Cette tête était celle d'un enfant enterré jusqu'au clou, que Locuste laissait mourir de faim à la vue de mets placés hors de sa portée, afin de faire après sa mort avec la moelle de ses os et son cœur desséché par la colère, un de ces philtres amoureux ou de ces breuvages amatoires que les riches libertins de Rome ou les maîtresses des empereurs payaient quelquefois d'un prix avec lequel ils eussent acheté une province. Néron et Locuste, pareils à deux ombres, suivirent quelque temps les rues tortueuses du Vélabre, puis ils s'engagèrent silencieux et rapides derrière la muraille du Grand Cirque, et gagnèrent le pied du mont Esquilin. En ce moment, la lune à son premier quartier se leva derrière sa cime, et sur l'azur argenté du ciel se détachèrent les croix nombreuses auxquelles étaient cloués les corps des voleurs, des meurtriers et des chrétiens, confondus ensemble dans un même supplice. L'empereur crut d'abord que c'était à quelques-uns de ces cadavres que l'empoisonneuse avait affaire, mais elle passa au milieu d'eux sans s'arrêter, et faisant signe à Néron de l'attendre, elle alla s'agenouiller sur un petit tertre et se mit comme une hyène à fouiller la terre d'une fosse avec ses ongles. Alors, dans l'excavation qu'elle venait de creuser, elle versa les cendres brûlantes qu'elle avait emportées de chez elle, et au milieu desquelles un souffle de la brise fit en passant briller quelques étincelles. Puis, prenant la brebis noire amenée dans ce but, elle lui ouvrit avec les dents l'artère du cou et éteignit le feu avec son sang. En ce moment, la lune se voila comme pour ne pas assister à de pareils sacrilèges. Mais malgré l'obscurité qui se répandit aussitôt sur la montagne, Néron vit se dresser devant la devineresse une ombre avec laquelle elle s'entretint pendant quelques instants. Il se rappela alors que c'était vers cet endroit qu'avait été enterrée, après avoir été étranglée pour ses assassinats, la magicienne Canidie, dont parlent Horace et Ovide, et il n'eut plus de doute que ce ne fût son fantôme maudit que Locuste interrogeait en ce moment. Au bout d'un instant, l'ombre sembla rentrer en terre, la lune se dégagea du nuage qui l'obscurcissait, et Néron vit revenir à lui, Locuste, pâle et tremblante. « Eh bien ?» dit l'empereur. Tout mon art serait inutile, murmura Locuste. N'as-tu plus de poison mortel?
Si fait, mais elle a des antidotes souverains.
Tu connais donc celle que j'ai condamnée? Reprit Néron.
C'est ta mère, répondit Locuste.
C'est bon, dit froidement l'empereur, alors je trouverai quelque autre moyen.
Et tous deux alors descendirent de la montagne maudite et se perdirent dans les rues sombres et désertes qui conduisent au Vélabre et au Palatin. Le lendemain, Actée reçut de son amant une lettre qui l'invitait à partir pour Baïa et à y attendre l'empereur qui allait y célébrer avec Agrippine les fêtes de Minerve.